Merci d'être avec nous, amateurs de sport. Dans quelques instants, j'aurai le privilège de m'entretenir avec un jeune homme. Il le sait pas, mais moi, je l'ai vu pour la toute première fois alors qu'il passait avec son équipe de Repentigny au tournoi Atombe puis Wee de Magog ou Atombe dans le temps. Et puis, c'était une des jeunes sensations de l'époque. Aujourd'hui, quelques décennies plus tard, cet ancien joueur de la Ligue junior majeure du Québec est en attente d'une greffe cardiaque. Éric Cool va nous raconter ce qu'il vit, comment il le vit de façon exemplaire et l'espoir, évidemment, d'avoir une réussite quant à la greffe, mais toujours dans l'attente, donc c'est à ne pas manquer dans les prochaines minutes. Mais d'abord, il y a une discussion publique qui s'est engagée d'une façon un peu, ma foi, avec beaucoup d'empressement, avec certains arguments qui ont été exprimés sur la place publique, puis c'est bien correct, tout le monde a le droit de s'exprimer. Une discussion autour, cependant, là où c'est difficile de se prononcer, c'est que par rapport au dossier de possible aide du gouvernement québécois ou de d'autres paliers de gouvernement à un projet de retour du baseball professionnel à Montréal autour de la construction d'un nouveau stade. On n'a pas la teneur des demandes. On sait que les gens impliqués se sont inscrits au registre des lobbyistes pour exercer, donc, pour engager une discussion avec les paliers de gouvernement concernés, mais on ne connaît pas la teneur de leur discussion. Sauf qu'il y en a beaucoup qui ont pris position très, très rapidement pour dire que tout ce qui touche à ça, de près ou de loin, c'est inacceptable. Il n'y en a pas de discussion. C'est fort bas, c'est terminé. Maintenant, moi, j'aime ça, la conversation. Et je suis très heureux que notre prochain invité accepte de venir converser, de venir discuter de ce sujet-là ce soir. Lui qui est connu pour plein de raisons, notamment parce qu'il souhaite amener un jour un club de la NBA à Montréal, parce qu'il a été ministre dans le gouvernement conservateur et parce qu'il est aussi vice-président de RBC, des marchés de capitaux de la banque RBC. C'est avec plaisir que nous accueillons M. Michael Fortier. M. Fortier, bonsoir.
Bonjour, Mario.
C'est pas évident de se prononcer dans ce débat-là, mais parce qu'on connaît pas la teneur des dites demandes, mais j'irais de façon plus générale dans un premier temps, M. Fortier. Quand on entend à coup de masse, là, ces derniers jours, que c'est impossible que le sport professionnel génère des retombées, c'est vrai ou c'est faux? Êtes-vous d'accord avec ça?
Ben, il faut d'abord se demander comment on calcule les retombées. Le débat, puis en fait c'est un débat à sens unique parce que les promoteurs du projet pour l'instant préfèrent ne pas parler, mais les gens qui sont contre sont contre parce qu'ils ne voient pas comment la construction d'un stade de baseball peut servir la collectivité. Et dans la mesure où on prend une analyse que cartésienne comme celle-là, moi je pense qu'il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup d'infrastructures dans notre communauté qui passerait pas la rampe non plus. Et donc, je pense qu'il faut faire attention. Il nous manque beaucoup d'informations avant de conclure que les retombées, là, peu importe ce qu'elles seraient, là, mais que les retombées passent pas la rampe.
Ouais, c'est intéressant, mais vous qui avez, par exemple, publiquement, donc c'est de notoriété évidemment publique, vous êtes venu en aide au Grand Prix de Formule 1 du Canada, les paliers de gouvernement sont venus en aide au Grand Prix. Je sais qu'on parle de pommes et d'oranges, on parle d'un événement qui se déroule sur un week-end, disons une semaine grosso modo avec les équipes qui arrivent avant, alors que là on parle de construction d'un stade, mais si c'est bon pour un, est-ce que c'est bon pour l'autre?
Ben, c'est-à-dire que c'est une excellente question. Le Grand Prix du Canada, effectivement, ça dure un week-end. Les gens qui sont dans l'industrie du tourisme vous diraient que ça dure en fait une semaine, même jusqu'à 10 jours. Il y a eu plusieurs analyses sur les retombées, autant les retombées fiscales pour les gouvernements, mais aussi l'emploi que ça crée pour les Montréalais et Montréalaises pendant cette période. Je pense que n'importe qui habite à Montréal, là, qui nous écoute, qui se trouve à Montréal durant cette semaine-là, au mois de juin, sait jusqu'à quel point notre ville se transforme. Bon, est-ce que c'est vraiment, quand on regarde chaque centime qui sont versés par les gouvernements, de toutes catégories confondues, est-ce qu'ils y retrouvent leur compte à chaque cent près? Bien sûr que non. C'est sûr que non. Est-ce qu'il y a d'énormes retombées? Bien sûr que oui. Mais en même temps, les gouvernements, peu importe le niveau du gouvernement, prennent des décisions durant l'histoire. C'est pas juste ici au Québec, mais c'est partout dans les grandes villes dans le monde. Il y a des événements qui se tiennent, des événements culturels, des événements sportifs, qui se tiennent dans des places, qui sont occupées de temps à autre pour des activités et qui servent la communauté. Moi, quand j'étais ministre, on a financé le quartier des spectacles. qui est une place qui est très importante à Montréal, qui a donné, c'était comme un fer de lance pour construire un paquet d'autres infrastructures autour du quartier des spectacles. Et franchement, avec le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, c'était vraiment un investissement retentissant. Maintenant, comment on calcule ça, M. Langlois? Comment on calcule ça, le retour sur l'investissement du quartier des spectacles?
Est-ce que tout est dans l'œil de celui qui regarde ou de celui qui veut... Tu fais parler les chefs en ta faveur quand il y a des analyses comme ça? Ou?
Ben, c'est-à-dire que les gens calculent l'occupation, qu'est-ce qui va se construire autour. Moi, je le connais pas assez bien, le projet du stade de baseball, mais il doit certainement y avoir des concepts multi-usages, il doit y avoir d'autres projets autour. Donc, je pense qu'avant de lancer des pierres au projet, je pense qu'il faudrait mieux comprendre, je vous dirais, l'entièreté du projet de la part des promoteurs. Ce que j'ai été un petit peu déçu que le premier ministre lui-même, probablement en souhaitant aider le projet, mais lui-même a comme eu une approche, à mon sens, qui était beaucoup trop cartésienne, en disant, ben, il va y avoir des retombées, puis notre aide va être à la hauteur des retombées. Ben, les retombées, ne serait-ce que pour le baseball seulement, avec une équipe qui jouerait que 40 matchs par année ici, écoutez, ce ne serait pas des retombées énormes. Là. Je ne suis pas fiscaliste, mais quand on regarde le salaire des joueurs, je pense qu'il y a sûrement plus que ça. Et une fois que les promoteurs se seront exprimés sur l'ampleur du projet, je pense qu'on sera plus à même de constater qu'il y aura, j'espère, là, d'autres retombées.
Donc, qu'est-ce que vous auriez souhaité entendre de la part du premier ministre Legault? Ben, ça tranche avec d'autres premiers ministres qu'on a eu dans le passé qui n'osaient pas ouvrir la moindre parcelle de fissure de fenêtre à une discussion là-dessus. Lui, il l'a ouverte, cette fenêtre-là.
Ben, il l'a ouverte, puis c'est très courageux. Aujourd'hui, son ministre des Finances vient de déposer un budget là, qui c'est pas rose. Là. Les prochaines années, il y a beaucoup d'encre rouge. Et quand on sait que plus de 80 sous sur chaque dollar qui est dépensé par l'État, plus de 80 sous vont à l'éducation et la santé, il reste 20 sous pour le reste. Puis dans le reste, il y a bien des affaires. Là. Il y a la culture, il y a l'environnement, il y a la justice. En tout cas, on pourrait faire la nomenclature, vous et moi. Donc, il va y avoir beaucoup de dépenses à cause de ce qu'on vient de vivre depuis les 12 derniers mois, puis qu'on risque de vivre encore pendant les prochains 3, 4, 5 mois. Et donc, la marge de manœuvre des gouvernements est encore plus restreinte. Donc, je dirais qu'avec cette toile de fond, c'est d'autant plus important, je pense, pour les promoteurs de bien expliquer le projet. Et ça va être d'autant plus courageux de la part des gouvernements d'appuyer le projet. Mais je pense que moi, ce que je vois de M. Legault depuis le début, c'est qu'il veut des projets novateurs. Il veut des projets qui vont créer de l'activité économique dans l'écosystème du Québec. Et une équipe de baseball, c'est une chose. Un stade multi-usage, si c'était le cas, c'est autre chose. Construit dans un quartier où autour d'un stade, il pourrait y avoir d'autres constructions qui en feraient comme un mini-quartier, un pôle d'attraction. Ça aussi, ça, je pense qu'on doit en tenir compte. Mais au moment où on se parle, Mario, on a pas beaucoup d'informations. Puis c'est pour ça que je pense qu'on devrait, avant de décider que c'est pas bon puis c'est trop cher, je pense qu'on devrait plutôt attendre de voir exactement de quoi en revient le projet.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis il y a un aspect qui peut devenir parfois désagréable aussi. Puis je pense pas que personne fait exprès, mais on dirait que ça provoque un débat qui n'en est pas un, là, parce que c'est pas une vraie conversation avec des arguments massus. C'est comme si on voulait opposer sport et culture. Vous avez parlé du quartier des spectacles tout à l'heure, M. Fortier. Je pense que aimer les arts n'empêche pas d'aimer le sport. En tout cas, moi, j'en suis des deux côtés. Je présume que vous aussi. Mais on dirait que ça se transforme souvent en guerre sur ça. Sport ou culture. C'est, comme c'est si c'est le clair. Sport ne pouvait pas faire partie de la culture. Sans exagérer, là.
Non, c'est ça. Ben, écoutez, la définition, on pourrait passer des heures à définir ce qu'est la culture. Est-ce que les sports, puis il y a sûrement des intersections. C'est sûr que les gens qui vivent de la culture, quand ils regardent le sport professionnel, surtout depuis la pandémie, ils n'ont pas du tout les mêmes conditions de travail. Et donc, on le sait, là, on a tous lu les mêmes articles. Vous avez peut-être même des amis dans le métier qui ont complètement perdu leur venue. Ils n'existent plus. Alors, c'est sûr qu'en toile de fond, c'est pas facile pour quelqu'un d'arriver et dire, ben écoutez, moi, j'ai un projet avec une équipe professionnelle de sport, je veux construire un stade au centre-ville et j'aimerais l'aide de l'État. D'abord, l'aide, elle a même pas encore été quantifiée. On ne sait pas si c'est une aide qui serait remboursable, on connaît pas les modalités. Alors, plutôt que de décider d'avance que c'est pas une bonne affaire, je pense qu'on devrait prendre le temps d'écouter les promoteurs quand ils partageront le projet avec nous. Parce que moi, évidemment, je suis pas objectif, je suis un maniaque de baseball. S'il y avait un match cet après-midi, les Tigers de Détroit en ville contre les Expos, à 4h15, j'aurais été là, dans mon siège. Et donc, j'essaie de rester objectif. Je suis un maniaque de base, comme je le suis de basket. Moi, je pense que autour d'un projet de stade et d'une équipe qui, j'espère, viendrait à long terme à Montréal. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de Montréalais qui se sont exprimés là-dessus. Et moi, je suis pas en désaccord. Avoir une équipe à temps partiel, peut-être à un moment donné, mais j'espère qu'on aurait une option pour l'avoir à temps plein. Et je pense que pour l'équipe elle-même, puis les joueurs, leur vie familiale, d'avoir deux domiciles comme ça, en plus des voyages qu'ils vont faire, je pense que ce serait pas mal dur sur les joueurs. Puis ça pourrait aussi amener certains joueurs à reconsidérer même de signer avec Tampa, Trade Union, Montréal. Donc, je suis certain qu'à long terme, les promoteurs ont un plan pour que l'équipe s'installe à Montréal à temps plein. Du moins, je l'espère, parce que moi, je préférais avoir la chance de voir 80 matchs plutôt que 40. Mais il faut pas poser la culture au sport. Puis je veux revenir au Grand Prix, parce qu'il y a un élément important. Les 100 000 personnes qui vont voir le Grand Prix, ils vont voir le Grand Prix sur un ouvrage communautaire. La piste de course, elle appartient pas à Formula One. Elle appartient pas aux promoteurs du Grand Prix. La piste de course sur l'île Notre-Dame, elle nous appartient. C'est une piste qui a été créée, qui a été bâtie pour rencontrer les normes de la Formule 1. Elle est pavée régulièrement avec nos taxes parce que on en a fait un ouvrage collectif, puis c'est là où se tient la course. Puis oui, l'été, le monde peut y aller en vélo, puis j'imagine l'hiver, les gens font peut-être je le sais pas, là, mais il n'y en demeure pas moins que si on avait eu un calcul cartésien là sur la piste, quelqu'un aurait dit quelque part, mais coudonc, il y a une course là-dessus vraiment que 3 jours durant l'année.
Et je reviens là, parce que à quelques reprises, vous avez utilisé le mot cartésien. Donc, quand vous dites à M. Legault que M. Legault a peut-être été trop cartésien, c'est que ça risque de fermer plus la porte que de l'ouvrir, en ce sens que, parce que si tu te fies ou tu t'appuies juste sur des revenus cartésiens, c'est pas si évident de les prouver.
Ben, il y a ça, mais je veux dire probablement que c'est juste moi, là. Peut-être que mes oreilles sont plus sensibles que le commun des mortels. Mais quand on demande un lien direct entre la présence d'une équipe de baseball majeure à Montréal, qui va jouer 40 matchs, pas 80, 40, parce qu'elle partage son domicile avec une autre ville. Les joueurs, donc, ils vont être à Montréal que 40 jours par année. Donc, au niveau des impôts, même si ces joueurs gagnent 7, 8, 9, 10 millions par année, ils ne paieront pas l'équivalent de ça en impôts au Québec. Ils vont être ici 40 jours durant l'année. Alors, c'est
on peut aller chercher 200 quelques millions sur 20 ans avec ça?
Ben, ça va prendre plus que ça, puis je suis certain qu'il y a plus que ça. Mon point, c'est, je pense qu'il faut pas réduire ça juste à l'impôt à être payé par les joueurs. Ah. Il va y avoir une activité économique autour du stade, j'en suis convaincu. Il y aura d'autres ouvrages. Et encore là, pour revenir à la base, on ne connaît pas les demandes qu'ont formulées ou que formuleront les promoteurs. Moi, je dis, attendons de voir quelles sont les demandes. Et voyons voir si elles s'inscrivent à l'intérieur d'un écosystème économique qui est plus vaste que la seule construction d'un stade de baseball. D'accord. Et l'occupation 40 jours par année.
En conversation avec l'ex-ministre conservateur Michael Fortier, banquier avec RBC également, plusieurs autres occupations. Monsieur Fortier, vous nous avez communiqué votre passion pour le sport à travers bien des actions, mais dans les dernières années, vous avez parlé de votre volonté d'amener un jour une équipe de la NBA à Montréal. Je vais vous parler de ça tout à l'heure, mais je veux revenir sur le concept de garde partagée. Donc, je vous sens pas un gros partisan de ça. Je vous invite à écouter Pierre Boivin qui parlait avec mes amis de La Poche Bleue il y a quelques semaines, qui lui, convaincu par Stuart Stenberg, le propriétaire des Rays, semble y croire. Puis j'ai une question ensuite.
Et c'est vraiment la vision de Stu, le propriétaire de Tampa Bay, qui pense que, puis convaincu, c'est pas juste qu'il pense, convaincu qu'on est en train de vraiment d'innover, de développer un nouveau modèle. Mais je pense qu'il y a plusieurs gens qui vont nous regarder aller à un moment donné, puis qui vont se dire peut-être que ça pourrait s'appliquer à d'autres sports et à d'autres villes qui sont pas de la taille de Los Angeles ou New York ou Chicago, par exemple.
Pensez-vous, puisque vous êtes un adepte de la NBA, que vous voyez peut-être un jour Montréal acquérir une équipe de la NBA, qu'un circuit comme la NBA serait ouverte à ça, à une garde partagée ou tout autre sport professionnel majeur?
Mais d'abord, je veux certainement pas être avoir l'avis contraire de Pierre Boivin, que j'aime beaucoup, que je connais très bien et que je respecte. Mais c'est le fan qui va vous parler. Parce que là, vous parlez pas juste à quelqu'un qui...
J'avais oublié ça dans la nomenclature.
Non, mais je suis un fan. Moi, c'est pas vrai. Moi, si les gens qui nous écoutent, là, les Canadiens, au lieu de jouer 41 matchs à Montréal, ils en jouaient 20. Bon, je pense qu'on vient de répondre à la question. Il y a une appartenance à une équipe. Le symbole, avoir le logo de l'équipe sur le cœur, suivre l'équipe, c'est pas vrai que, en tout cas, moi je pense pas, là, c'est pas vrai que tu peux avoir le même sentiment d'appartenance à avoir une avoir que 40 matchs plutôt que 80. Mais où Pierre a raison, c'est qu'au moment où on se trouve, on a zéro match. Tu sais, on n'a pas. Alors, on part de zéro, puis on va à 40.
C'est un début, c'est ça que vous voulez dire.
C'est toute une progression. Et c'est sûr que les Canadiens, on partirait de 40 pour aller à 20, c'était impensable. Mais moi, le modèle, si on avait une feuille blanche, puis si on voulait, s'il n'y avait pas vraiment d'écueil, est-ce qu'on ferait vraiment un modèle d'équipe partagée? Personnellement, non. Mais moi, je suis pas impliqué dans le projet de Pierre et de M. Bronfman. Donc, ils ont d'autres impératifs. Ils traitent avec une équipe qui est déjà établie à Tampa Bay. Donc, je ne veux pas m'immiscer dans les discussions qu'ils ont avec eux. Mais c'est vraiment le fan qui vous parle. Je trouverais ça très difficile. J'irais au match, mais de rester collé à l'équipe alors qu'elle est à Tampa, elle n'est pas ici. Il y aurait des moments où je trouverais ça très difficile.
Et justement, la sous-question sur la NBA, est-ce que la pandémie, M. Fortier, a refroidi vos ardeurs, vos ambitions, votre rêve d'amener un jour la NBA s'établir à Montréal?
Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, le projet de baseball, pour être bien honnête, ils sont bien plus avancés que nous. Ils ont un commissaire qui parle ouvertement de vouloir venir à Montréal. Ils ont des discussions très avancées avec une autre équipe. Donc, je suis très envieux. Nous, on est encore sur les lignes de touche. Il n'y a pas de projet d'expansion. Est-ce que la pandémie risque de retarder l'expansion? Peut-être. Mais moi, je demeure convaincu que la Ligue va procéder à des plans d'expansion. Je ne sais pas quand. Et il y aura peut-être une équipe ou peut-être même deux, qui sera appelé à être relocalisé, ne sait-on jamais, dans les prochaines années. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de rester prêt pour cette éventualité.
Ben, c'est très intéressant comme réponse. Puis, peux-tu vous partager une petite réflexion suite à la discussion qu'on a eue sur la possibilité d'aide publique? Et en citant un exemple, le fameux centre Bell, auparavant le centre Molson, par rapport, et là, on ne parle pas d'aide gouvernementale. Ils payent leurs taxes, puis ils l'ont construit de façon privée. Et les gens reprochent aux gens fortunés de demander de l'aide plutôt que d'investir à même l'argent qu'ils ont dans leur poche. Quand on sait que la famille Bronfman a vendu, a pas donné les expos au Québec Inc. Là. Ils l'ont vendu, puis Charles Bronfman soulignait qu'il avait fait un bon profit dans sa biographie. Alors, et là, on regarde ça des années plus tard, alors que les tours poussent autour du centre Molson, Bell, maintenant. J'ai peine à croire qu'il n'y a pas eu de retombée autour de la construction de cet amphithéâtre-là. Il faudrait vraiment me convaincre, là, avec des arguments à ma suite, de dire qu'il n'y a eu aucune retombée. Et c'est juste un investissement privé. Or, si un investissement privé comme celui-là a généré des retombées que je soupçonne, pourquoi les gens qui croient en un projet de baseball n'imitent pas le modèle?
Bien, je ne sais pas si c'est eux qu'il faut que vous posiez la question, mais quand on commence à s'interroger sur la fortune d'une personne qui a un projet et qui veut créer de la richesse dans la communauté, puis on se dit, ben elle, on l'aidera pas parce qu'elle est milliardaire, donc elle fera son projet toute seule. Ben elle ne le fera pas, le projet. C'est aussi simple que ça. Un projet commercial, qu'on soit milliardaire ou qu'on soit pauvre, qu'on soit entre les deux, le projet doit être évalué à son importance, à sa solidité, puis aux objectifs financiers. Moi, je suis pas du tout préoccupé par le fait que M. Bronfman soit fortuné ou non. S'il crée un projet qui va être rassembleur, puis qui va créer un écosystème économique dans le quartier, avec un stade multi-usage, avec d'autres infrastructures autour, ben je vois pas pourquoi il pourrait pas lui aussi obtenir un soutien de l'État. On l'a fait avec d'autres sociétés, on l'a fait avec d'autres projets. Donc, le fait que M. Bronfman soit fortuné ou ne le soit pas, selon moi, n'est pas un critère.
Et en terminant, M. Fortier, comme fan et comme homme d'affaires, ceux qui disent, là, si vous ramenez le baseball, c'est au stade olympique.
Oh non, mais non, ben ce monde-là, c'est parce qu'ils sont pas allés au stade, là. Moi, j'avais des billets de saison, j'étais jusqu'au dernier match. Là, je parle pas là des matchs hors concours qu'on voit au mois de mars où il y a 70 000 personnes dans le stade, tout le monde crie, là. Mais c'est pas ça la vraie vie, là. La vraie vie, là, c'est y aller 80 fois. OK? 80 fois là-bas, là, non. C'est pas un stade de base. C'est pas un stade de baseball. Le stade de baseball, tu t'installes, c'est au grand air.
On n'a jamais eu un stade de base. On n'a jamais eu à Montréal.
Ben non, mais non. Et puis, des fois, il va faire froid, je le sais. Là, la saison va commencer en avril. Si on avait des matchs dans deux semaines, oui. Une petite laine pour les premiers matchs d'avril.
C'est sûr.
Mais on serait très bien durant l'été, on le sait. C'est au centre-ville qu'il faut que ça nous prenne un stade. Puis, ben, si on a du baseball, je pense que c'est là qu'il faut aller le voir.
Monsieur Fortier, merci beaucoup de nous avoir accordé cette conversation. C'est très apprécié.
Ça me fait plaisir, Mario. Bonne soirée.